I have delighted to be here. Thanks.
Je suis très heureux d'être ici et je remercie Brigham Young de m'avoir accueilli.
Begin this session.
On peut se poser la question, le Chili est-il un État laïque ? Est-ce que les catégories de la laïcité peuvent nous aider ? Pour de nombreuses raisons, le Chili est un pays de paradoxes. Paradoxe qui caractérise un État en transition. Par exemple, en 2005, et le président Lagos ayant reçu le mandat de promulguer une révision de la Constitution, élimina par un moyen administratif l'invocation au Dieu Tout-Puissant qui débutait chaque texte constitutionnel chilien depuis 1810. Toutefois, vu ce changement, qui pourrait être appelé la laïcité à la française, le Diario officiel de la République, le registre officiel de la République, suivant au mieux la tradition d'un régime d'unité État-Église, a publié la loi 20-148 qui institue chaque année le 16 juillet comme jour de célébration et d'honneur rendu à la Vierge de Carmen. De même, le président Ricardo Lagos Escobar a institué un jour de fête nationale pour les églises chrétiennes, évangéliques et protestantes au Chili. Comme toutes les nations sud-américaines, les tendances libérales ont affecté le Chili. En 1884, une loi publiée rendait le mariage civil obligatoire. C'était une loi curieuse par sa définition du mariage, qui était semblable à celle de la loi canonique et qui ne tenait pas compte du divorce. Bien que le mariage religieux n'ait pas de retentissement civil. Cette même année, il y eut une tentative manquée de séparation de l'Église catholique et de l'État. Il a fallu attendre jusqu'en 1925 pour avoir une réforme de la Constitution de
1833.
Ou pour certains, une nouvelle constitution dans laquelle il y avait un accord avec le Saint-Siège pour établir une coexistence amiable. En d'autres termes, une séparation comprenant de nets avantages pour l'Église catholique. Ce fut la fin du règne des juridictions, mais la fin également du budget gouvernemental pour l'Église. Bien que l'Église maintenait sa personnalité juridique en droit civil, les Églises, qui n'étaient pas catholiques, elles, furent réduites à des personnalités juridique de droit privé, non reconnu, mais autorisé par action administrative. Et par conséquent, toujours susceptible d'être dissoute par décret. Pendant que l'Église catholique conservait un jus statuendi, droit de statuer extrêmement large, celui-ci était refusé aux autres dénominations. Tandis que l'Église catholique n'est sujette à aucun système de greffe, les églises non catholiques n'ont pas le droit d'opérer si elles ne sont pas enregistrées au greffe du ministère de la Justice. Suite à un autre accord de 1911, le pastorat des forces armées fut créé. Et on réserve à l'Église catholique seule le droit de rendre un service religieux aux forces armées et policières. L'accès aux établissements pénitentiaires et hospitaliers dépendait du bien vouloir des gouvernements. La situation est restée la même depuis. Il faut attendre la loi sur la liberté religieuse. Il faut donc attendre, comme je disais, la loi sur la liberté religieuse du 24 octobre 1999 pour que certains problèmes s'atténuent. Les libertés de conscience et de culte ont été décrétées en 1925, mais sans égalité religieuse. Elles ne figuraient pas non plus dans la loi de 1999. Par conséquent, les dirigeants évangéliques doivent faire appel à l'esprit de la loi, car la lettre de la loi ne les aide pas. C'est une aspiration sans fondement légal ou constitutionnel. Étant donné toutes ces différences, l'État chilien ne peut pas se dire entièrement neutre en matière de religion. L'examen d'un point particulièrement sensible du principe de laïcité montre qu'il n'y a jamais eu de déclaration officielle de la laïcité ou du caractère séculier de l'éducation au Chili, et l'éducation publique n'a jamais été séculière dans les faits. De 1925 à ce jour, l'éducation publique s'est progressivement trouvée affaiblie par divers gouvernements, décroissant à la fois en quantité et en qualité. Depuis 1980, l'éducation n'a plus été la responsabilité de l'État seul. Elle est maintenant plutôt subordonnée au droit des parents d'éduquer leurs enfants. Ce qui signifie que le rôle de l'État est secondaire en matière d'éducation. En 2002, les inscriptions des élèves dans les écoles primaires et secondaires représentaient 15% du total des inscriptions au niveau national. Dans l'enseignement supérieur, 15 institutions catholiques, 11 universités et 4 instituts professionnels représentent 21,9% des inscriptions. Et si nous comparons les pourcentages en 2002, ceux de l'éducation catholique à ceux de toute l'éducation privée était de 31,9 et 34% du total dans l'enseignement supérieur privé. Ceci nous montre que la politique de privatisation de l'éducation tend à élargir le rôle de l'Église catholique et bien sûr qui est loin le principal éducateur privé du pays. La tentative en 1973 du gouvernement Allende de créer une école unifiée nationale s'est soldée par un échec suite à une nette opposition de l'Église catholique. Le nouveau plan du gouvernement Bachelet, qui vit le jour en 2006-2007 et vise à renforcer l'éducation publique et le contrôle gouvernemental en matière d'éducation, semble aussi voué à l'échec. Toujours est-il que tout progrès en matière de laïcité étatique a dû être négocié avec l'Église catholique.
There are three phenomena.
Aujourd'hui, on remarque trois phénomènes au Chili. la détérioration progressive du catholicisme et l'accroissement considérable des groupes évangéliques et pentecôtistes. Le recensement de 2002 montrait que les catholiques représentaient 70% de la population, les groupes évangéliques 18%, et que les autres religions étaient pratiquement non existantes. Par exemple, les musulmans ne constituaient qu'à peine 0,1%. De nouveaux sondages en mars 2006 montrèrent que le nombre de catholiques continuait à baisser.
This is very possible due to the effects of Chile's outright secularization, complete immersion in
export,
thus laying open to the country to the impact of globalization. If this is so, Chile's society will be nearing.
La société, dans ce cas, donc le Chili se rapproche de l'Uruguay, qui devient une société de plus en plus sécularisée. Actuellement, un moment où le laïcisme n'a vraiment que peu d'effet au Chili, l'Église catholique ne profite toujours pas de ses privilèges de manière égoïste. À des moments notables dans l'histoire du Chili, elle a fait des contributions extrêmement importantes à la démocratie et aux droits de l'homme dans le pays. Par exemple, d'après la Constitution initiale de 1925, si aucun candidat n'avait une majorité absolue au premier scrutin, l'élection devait être déterminée par les deux assemblées rassemblées en un seul congrès. En 1938, une majorité populaire du Frente Popular a battu de justesse la droite. Avant la prise de décision du Congrès, l'archevêque de San Diego, José María Caro Rodríguez, est intervenu publiquement pour dire qu'à son avis, la première majorité devrait toujours être ratifiée. Ceci a mené à des gouvernements radicaux socialistes communistes. Ceci, comme je disais, a mené à des gouvernements radicaux socialistes communistes ayant des origines clairement maçonniques qui ont gouverné le Chili pendant 12 ans. Tout ceci grâce à l'intervention non laïque d'un archevêque qui devint ensuite le premier cardinal chilien. En 1970, la même situation se répéta lors de l'élection de Salvador Allende, élu avec un peu plus de 32% des voix. La doctrine Caro fut invoquée par le cardinal, alors archevêque, Raúl Silva Enríguez, après sa visite à la majorité du premier tour, avant que tout le Congrès ne se réunisse pour prendre leur décision. Ce fut la deuxième fois qu'un gouvernement séculier de gauche monta au pouvoir suite à l'influence d'un archevêque de San Diego. La doctrine Caro s'imposa sans exception entre 1940 et 1973. D'un autre côté, après le coup militaire de 1973, Silva Enríguez entreprit un réel effort en faveur de toutes les personnes persécutées, disparues, torturées, exilées, suite aux actions du régime politique ainsi qu'en faveur de leurs familles. Et il créa en 1974 le Pastorat de la Solidarité, une personnalité juridique de droit civil dérivée du privilège de juste statuendi, qui avait été jusqu'alors réservé à cette confession jusqu'en 1999. Le pastorat a fonctionné pendant la durée des 17 régimes militaires et ses écrits ont été essentiels pour les commissions de vérité et de justice. Une fois qu'on est retourné à la démocratie, bien sûr. En résumé, tout d'abord, le Chili n'a jamais eu de conflit religieux. Deuxièmement, le pays a eu une courte période de 11 années de politique séculaire provenant moins du laïcisme que d'une politique du Saint-Siège pour la nomination d'évêques. Le catholicisme tolère le juridictionnisme lorsque des gouvernements conservateurs sont au pouvoir, mais ne les tolère pas lorsque ce sont des gouvernements libéraux. D'autre part, il est également vrai que les libéraux chiliens avaient accepté la liberté religieuse avant 1925, mais qu'ils ont préféré maintenir le parrainage. Troisièmement, depuis 1850, un ultramontaniste a prévalé au sein de l'Église catholique. Et pendant une période de 130 ans, on a vu ce qu'Émile Poulla appellerait un catholicisme intégral ou un intransigeantisme catholique. Malgré cela, ce catholicisme, qui a été très social, a pu établir des accords sociaux largement tolérants et établi en collaboration sur un principe d'un laïcisme ouvert et tolérant. Il n'est pas prévu que cette situation change dans l'avenir au Chili, mais il faudrait établir d'autres accords laïques qui soient au niveau du XXIe siècle, c'est-à-dire à la hauteur d'une société nouvelle, plus sécularisée, multiculturelle et plurireligieuse. Quatrièmement, j'en suis mené à poser la question de l'utilité des catégories de style français ou de style européen pour analyser la situation au Chili. Malgré ses faiblesses et ses limites, la laïcité en tant que pratique sociale a toujours été appréciée, sans besoin de qualificatif. Le laïcisme chilien n'a pas été un mouvement pervers par nature, mais une praxis historique servant au dialogue et grandissant à partir des valeurs de la laïcité. Il ne pourrait pas être plus éloigné de la comparaison laïcité-laïcisme qui a prévalu parmi l'intelligentsia depuis 1946, du moins l'intelligentsia catholique. Par conséquent, je suis d'avis que les distinctions de catégories traditionnelles faites par l'Église catholique entre laïcité et laïcisme soient réexaminées à la lumière de la pensée des universités chiliennes afin de pouvoir relever les nouveaux défis sociaux du XXIe siècle. Merci beaucoup.